Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Bonjour et bienvenue à cet entretien d'embauche par intelligence artificielle. Avant de commencer, nous allons vérifier votre webcam et votre micro.
Souriez, vous êtes filmé, mais pas seulement, vous êtes jugé et embauché ou pas par ce robot chargé des entretiens d'embauche. Bienvenue en Corée du Sud où l'intelligence artificielle a pris la main au fond sur le DRH. C'est pas très rassurant, ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Australie, en Espagne, en Californie. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce, un homme sur deux. Étant une femme, Julia vous racontera la perfection au masculin et notamment comment les Saoudiennes aussi divorcent par SMS. C'est sûr, c'est plus rapide. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et cette Pologne autour de son maire à Gdansk, le maire qui est mort d'un coup de couteau. Une Pologne qui réfléchit sur les discours de haine qui sont véhiculés. Avant cela, nous allons en RDC, mais pas seulement. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
On en parlait donc à l'instant dans le journal, les épisodes autour de l'élection en RDC ne sont pas finis avec des fuites qui donnent bien la victoire de Martin Fayoulou, l'autre opposant le plus populaire. Et j'aimerais qu'on en profite justement pour s'interroger aussi sur la démocratie en Afrique, pourquoi il est parfois si difficile au fond, c'est peut-être ce que la RDC est en train de nous dire, de rompre avec les vieux démons des successions dynastiques. Bonsoir Gilles Yabi.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique et économique. Vous avez notamment fondé Wati, qui est un think tank citoyen. Vous êtes en direct de Dakar, grâce à nos amis de RFI qu'on remercie. Je voudrais avoir votre lecture, Gilles Yabi, de ce qui se passe en ce moment en RDC. Des documents rendus publics aujourd'hui disent donc que les résultats de l'élection ne sont pas ce qu'on nous avait annoncé. On pouvait le supposer. Il y avait évidemment de fortes suspicions. Est-ce que ça change tout? Est-ce que ça change quelque chose?
Alors, il y avait des suspicions, comme vous l'avez dit. Je crois que tout le contexte de cette élection présidentielle, notamment en République démocratique du Congo, a été marqué par de fortes suspicions depuis le début, et notamment des doutes sur l'intégrité ou en tout cas l'impartialité de la Commission électorale nationale chargée de l'organisation de cette élection. On a eu aussi, par exemple, une décision quelques jours avant le scrutin de ne pas l'organiser justement dans un certain nombre de localités qui représentent quand même 1,2 million d'électeurs. Donc, on avait quand même très clairement beaucoup de soupçons. On savait que cela n'allait probablement pas très bien se passer. Alors, les nouveaux documents semblent confirmer les propos de Martin Fayoulou, qui était donc l'un des candidats à cette élection, porte-flambeau de l'opposition, d'une partie de l'opposition en tout cas. Et cela va renforcer les demandes d'un recomptage des voix. Mais je dois dire que j'ai très peu de cas en mémoire où on a eu une élection comme celle-là contestée avec des résultats annoncés par la commission électorale où on aura vraiment une remise en cause de ces résultats officiels qui sont encore provisoires.
Martin Fayoulou rêve d'un scénario, j'allais dire à la Kenyan. On se souvient que l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, en 2017, c'est la Cour suprême qui avait annulé l'élection. Est-ce que ça vous semble totalement du domaine du pur impossible? Parce que s'il faut rappeler quand même que on peut recompter, mais si on invalide, alors du coup Kabila revient le temps qu'on refasse une élection. Donc recompter, un entre-deux, ça vous paraît complètement irréaliste, on va dire?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit réaliste d'avoir un recomptage. Je ne suis pas sûr que le recomptage, par contre, puisse se faire dans des conditions qui assurent que cela va aboutir réellement à la réalité des résultats, parce que tout cela a été organisé dans une grande opacité. D'ailleurs, des règles électorales n'ont pas été suivies par la commission elle-même. Et donc, en fait, l'institution maintenant qui est vraiment qui a la clé, c'est plutôt la Cour constitutionnelle. Qui peut effectivement décider sur la base des réclamations portées par le candidat Fayoulou, la Cour constitutionnelle peut décider effectivement d'annuler cette élection. Mais je crois qu'il y a une très grande différence entre en particulier la position de la justice, l'intégrité ou l'indépendance de la justice dans un pays comme le Kenya et dans un pays comme la République démocratique du Congo. On n'a pas du tout le même type de rapport rapport entre les institutions et il y a aussi de très forts doutes sur le fait que la Cour constitutionnelle ne soit pas très partiale.
Parce qu'au fond, lorsque les résultats ont fini par être donnés, avec une semaine de retard d'ailleurs, rappelons-le, on s'est demandé à un moment s'il fallait pas finalement regarder la bouteille à moitié pleine en RDC, en se disant que c'est vrai que cette élection manquait de rigueur, ça c'était clair, mais qu'au moins on était peut-être passé à une autre ère que celle de Kabila et que c'était peut-être au fond une bonne nouvelle que d'avoir une première alternance dans ce pays qui n'en a jamais connu depuis l'indépendance. Est-ce que cette bouteille à moitié pleine, au fond quand même, vous la regardez en disant pourquoi pas, ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de purement de triche pure et de bouteille donc à moitié vide pour vous, Gilles Yabi?
C'est vrai que c'est une question délicate. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut effectivement se réjouir de l'alternance, hein, puisque finalement le président Kabila va quitter le pouvoir. Mais on voit bien aussi que, d'une part, le résultat de l'élection semble être un résultat négocié politiquement. Et donc, si Félix Tshisekedi n'a pas vraiment gagné cette élection, cela veut dire qu'effectivement, on a un président qui aurait été d'une certaine manière nommé et négocié entre, disons, une partie de l'opposition et le camp du président Kabila. Et d'autre part, il y a eu aussi des élections législatives et on voit là le front du camp Kabila qui emporte très largement ces élections législatives. Ce qui veut dire que finalement, au niveau institutionnel, on s'attend à avoir non seulement un Parlement et un Sénat contrôlés par le camp du président Kabila, mais aussi à avoir un Premier ministre qui, selon la constitution du pays, doit provenir de la majorité parlementaire et donc qui proviendrait également du camp Kabila. Dans ces conditions, fondamentalement, je crois qu'il serait très osé de parler d'alternance en République démocratique du Congo.
On avait bien senti la gêne, au fond, de la communauté internationale, la France, par exemple, qui avait commencé par s'insurger au moment des résultats et puis qui finalement revient en arrière. Est-ce qu'on attend quelque chose aujourd'hui de la communauté internationale? On attend des mots et de la France, d'ailleurs, également, ou pas du tout?
Alors, je crois que d'abord il y a eu un commentaire effectivement très très rapide de la part du ministère français, du ministre français des Affaires étrangères, qui n'était pas, à mon avis, un commentaire très adroit, puisque je ne suis pas sûr que ça allait dans le sens d'ailleurs du renforcement de la position de Martin Fayoulou. Il y a quand même une crispation très forte et justifiée dans beaucoup de pays africains sur disons des marques, des signes d'ingérence évidentes de la part d'acteurs extérieurs et en l'occurrence de la France dans le résultat d'une élection. Là, on parle de politique et donc effectivement, ce commentaire n'était probablement pas approprié. Maintenant, il est très clair qu'il y a des doutes qui sont émis par différentes chancelleries sur le résultat annoncé par la commission électorale et que ces doutes sont, disons, s'appuient sur les observations, notamment de l'Église catholique qui avait déployé, disons, la mission la plus large dans le pays et qui clairement conteste également les résultats annoncés par la commission électorale. Moi, je ne crois pas, je pense qu'il est important, parlant de la République démocratique du Congo aussi, de rappeler qu'il n'y a pas de communauté internationale avec des positions qui seraient les mêmes entre les acteurs. Ouais. La République démocratique du Congo est un pays stratégique, avec des ressources stratégiques. Il y a énormément d'acteurs extérieurs qui sont intéressés et qui ont des positions qui ne sont pas nécessairement convergentes. Donc, je m'attends pas à une position commune de la communauté internationale qui, à nouveau, n'existe pas dans ces cas-là. Mais je m'attends à ce qu'il y ait à la fois un rôle important joué par ces acteurs extérieurs, disons, un peu lointains, mais aussi par les acteurs extérieurs régionaux qui jouent un rôle important également dans le dénouement de cette élection.
Comment vous expliquez qu'il ne se soit rien passé dans la rue, ou peut-être pour l'instant, je ne sais pas, mais il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de grosses manifestations, il n'y a rien eu de tout ça? Alors, on s'en félicite, hein, parce que sinon, dans ces cas-là, ça veut dire des morts. Mais comment se fait-il que la société civile, au fond, accepte ces résultats-là? Et où est-ce qu'elle les accepte? Est-ce qu'il y a toujours un risque, selon vous?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que la société civile accepte ces résultats. Je crois que les partisans de Fayoulou, qui sont quand même très nombreux, on a vu pendant la campagne électorale des foules importantes l'accueillir, et il y a eu des manifestations, disons, de mécontentement lorsque le résultat a été annoncé. Mais je crois qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on est dans le contexte quand même d'un pays avec des manifestations qui sont régulièrement réprimées de manière très violente. La société civile congolaise, les jeunes en particulier, organisés dans un certain nombre de mouvement citoyen, ont payé déjà un tribut assez lourd, y compris des morts, pendant toutes leurs manifestations pour réclamer déjà qu'une élection se tienne dans des conditions qui soient acceptables. Donc je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne voit pas peut-être des manifestations de grande ampleur, c'est probablement aussi parce qu'il y a une culture de la répression qui est très installée, et aussi parce que on n'est pas au terme encore du processus électoral. Peut-être qu'il y a encore l'espoir que la Cour constitutionnelle, prenne une position différente. Il y a peut-être encore l'espoir à nouveau que ce résultat ne soit pas finalement le résultat définitif. Mais peut-être que lorsqu'il le sera, on aura des réactions beaucoup plus fortes et potentiellement violentes.
Gilles Yabi, comment les voisins, c'est le plus grand pays, la RDC, comment les voisins, même les voisins un peu lointains, regardent se dérouler ce processus? Je vous pose la question parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu un putsch raté au Gabon. Il se trouve que le nouveau gouvernement a prêté serment aujourd'hui, mais il y a eu ce moment de soubresaut. Il y a d'autres endroits où il y a eu des élections qui ne se sont pas si mal passées que ça. Comment on regarde cette RDC? Est-ce que au fond, on est dans l'éternelle histoire africaine, on va le dire comme ça? Ou est-ce qu'il se passe quand même quelque chose sur le continent qui fait que ces successions monarchiques sont quand même en train de voir leur fin, en fait?
Alors, je crois que il est vraiment important de rappeler à nouveau que lorsque nous parlons de l'Afrique, nous parlons d'un continent qui est extrêmement divers et que cette diversité, elle concerne également le champ politique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde une région comme l'Afrique de l'Ouest, qui est celle sur laquelle je travaille particulièrement, on n'est pas dans des dynamiques politiques antidémocratiques. On a eu des changements extrêmement importants. On a une culture de l'alternance qui commence à s'installer dans une majorité de pays en Afrique de l'Ouest.
Non,
on peut
par exemple,
isoler les cadres récalcitrants comme le Togo, notamment.
Mais oui. Pardon, mais il y a des élections bientôt à la fin du mois de février au Sénégal, par exemple, et on commence à dire qu'il manque deux candidats aussi, donc tout n'est pas encore fait, y compris dans cette Afrique de l'Ouest-là.
Ah non, absolument, tout n'est pas fait, c'est pas ce que je dis. D'ailleurs, tout le combat qu'on essaie de mener, c'est pour avoir toujours une amélioration des systèmes politiques en place dans le contexte, disons, de démocratie qui sont récentes. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a malgré tout il est extrêmement important de faire la différence entre la situation d'un pays comme la République démocratique du Congo et beaucoup de pays d'Afrique centrale où il y a effectivement pas de culture d'alternance politique, où il y a pas eu de progrès dans la démocratisation depuis 20 ou 30 ans en Afrique centrale, mais ces progrès, ils ont existé dans d'autres parties du continent, en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans certains pays en Afrique australe et en Afrique orientale. Donc je crois qu'il est vraiment important de garder aussi en tête cette singularité des trajectoires politiques. Et dans le cas de la République démocratique du Congo, j'essaie de ne pas parler de la démocratie et des élections sans parler des ressources stratégiques et de l'économie. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis pas 10 ans, pas 20 ans, mais depuis la naissance et avant même la naissance de ce pays en tant qu'État indépendant. On ne peut pas isoler cette histoire de la situation actuelle, de l'incapacité d'avoir un espace d'autonomie pour ceux qui veulent faire progresser la démocratie, les libertés et aussi une certaine autonomie dans la gestion économique du pays par rapport à ceux qui sont là vraiment dans une logique de prédation, que ce soit des acteurs intérieurs ou des acteurs extérieurs.
Gilles Yabi, juste une dernière question. Vous le dites effectivement, bien sûr que chaque pays est un cas particulier. On a un peu l'impression, quand on regarde de loin, que quand on regarde le Ghana, quand on regarde le Nigeria, que certains pays non francophones, en fait, s'en sortent finalement mieux que nos anciennes colonies à nous en matière de démocratie. Est-ce que c'est une réalité ou ce sont juste deux exemples, en fait, qui ne font évidemment pas une généralité?
Alors, difficile de répondre rapidement à cette question. C'est assez complexe. Je pense qu'on peut pas réduire les variations entre les trajectoires au fait qu'on ait des colonies, des anciennes colonies françaises ou britanniques. Mais je crois qu'il y a eu une rupture politique plus importante. Il y a eu des ruptures politiques plus importantes dans les pays, effectivement, anglophones, par exemple, par opposition aux pays francophones, où là encore, on peut vraiment pas isoler ce qui se passe encore aujourd'hui dans beaucoup de pays du contexte historique qui a longtemps été marqué par une sélection des chefs d'État, notamment par la France. Et je crois que maintenant, cela est établi, c'est un fait historique et cela continue à avoir des conséquences, notamment en Afrique centrale, avec des présidents, certains qui sont en place depuis très longtemps et qui l'ont été clairement aussi avec le soutien, un soutien qui peut être décisif d'une puissance comme la France.
Gilles Yabi, analyste politique, économiste, fondateur notamment du think tank Yati, vous revenez quand vous voulez dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup et grand merci aussi à nos amis d'RFI pour le studio à Dakar. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Corée du Sud. C'est pas très rassurant. Vous verrez que ce sont des robots qui se chargent des entretiens d'embauche. Sous les radars et Amélie Perry avec la compagnie d'électricité de Californie qui paye pour les incendies de cet été. Vous le verrez. La chronique pour tous, puisqu'un homme sur deux est une femme. Bonsoir, Julia Foyce.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir, tout le monde.
De l'influence des tulipes sur la sexualité, alors.
C'est ça. Ou comment il fait bon d'être néerlandaise par les temps qui courent.
Allez, on verra ça dans un instant. Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Bonsoir, Jean-Marc.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous.
Avec Danse en Pologne qui pleure son mère et nous montre peut-être une résistance à la violence politique. Oui, du moment.
Ce haut le cœur après l'assassinat du maire de Gdansk nous dit quelque chose de l'émergence d'une résistance nécessaire face aux dérives autoritaires.
Allez, le tour de la planète continue. Il passe par la Nouvelle-Orléans, figurez-vous, Duran Jones, The Indications. Sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimakio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perry. Amélie, on commence avec ces fameux incendies meurtriers en Californie qui continuent de tout balayer sur leur route.
Y compris PG&E, la plus importante compagnie d'électricité aux États-Unis en nombre de clients. Elle a annoncé hier qu'elle allait se déclarer en faillite. Le titre a perdu la moitié de sa valeur en bourse dans la journée à cause donc de Campfire.
County 13 is bad. Hey guys!
Souvenez-vous de ces images où les flammes envahissent les lotissements, les bords de route. À l'automne dernier, l'incendie baptisé donc Campfire a fait au moins 86 morts et ravagé des villes entières, dont Paradise, qui ne portait plus du tout bien son nom. À l'origine du feu, les équipements de la compagnie d'électricité pourraient être en cause. PG&E le sait et dès novembre, elle annonçait risquer une lourde mise à l'amende. Elle estime les sommes susceptibles de lui être réclamées en dommages et intérêts autour de 30 milliards de dollars pour les incendies donc de l'automne dernier, mais aussi pour ceux de 2017. Une procédure bien américaine, le chapitre 11, pour se placer en faillite, a été donc déclenchée. Mais le groupe va continuer ses activités sous la surveillance d'un tribunal. Cela lui laisse le temps de chercher une solution avec ses créanciers. PG&E promet qu'il n'y aura pas d'incidence sur la distribution d'électricité de gaz naturel à ses 10 millions de clients.
C'est une pratique ancienne, une pratique traditionnelle, c'est ce que disent ses défenseurs, une pratique barbare pour ses opposants.
Le combat de coq. Alors, on ne va pas débattre de la tradition, hein, de la culture derrière, mais en Espagne, cette passion est devenue l'objet d'un trafic très juteux et cruel pour les animaux. La police vient d'annoncer l'arrestation de plus de 180 personnes. L'opération a visé un championnat illégal, un championnat qui se voulait national dans un village de la région de Murcie, c'est dans le sud-est. Les coqs avaient été équipés avec des éperons métalliques, ont raconté les policiers. Ils étaient aussi drogués pour augmenter leur agressivité et leur résistance. Les forces de l'ordre ont saisi près de 300 000 euros, car l'intérêt de ces combat, ce sont les paris autour, illégaux. Ils ont saisi aussi des produits dopants, des plants de cannabis.
Ah bah dis donc.
Oui, on fait fumer les coqs.
Ah bon?
Apparemment.
Non mais sérieusement.
Le code pénal. Oui, on les dope. Et le code pénal prévoit jusqu'à un an de prison pour maltraitance animale et jusqu'à un an et demi en cas de mort de l'animal.
Dites-moi, des animaux en danger encore, cette fois en Australie?
Oui, là ce sont des milliers de poissons qui ont été retrouvés morts ces derniers jours dans des fleuves du sud-est. Le bassin des rivières Murray et Darling, les berges sont recouvertes de poissons qui pourrissent et empestent l'atmosphère. Alors voilà, ces vidéos ont envahi les réseaux sociaux australiens. Images de bords de rivière envahis par les cadavres de poissons. Les habitants qui parlent des odeurs insupportables. On parle donc de centaines de milliers, voire d'un million de spécimens morts ces derniers jours. Le gouvernement impute ce drame écologique à la sécheresse. Les cours d'eau baissent, les températures sont de plus en plus étouffantes. Ces conditions pourraient avoir favorisé aussi le développement d'une algue qui prive les poissons d'oxygène et libère des toxines. Mais nombreux acteurs locaux et des universitaires ne croient pas en la fatalité de la météo, en tout cas pas seulement. Les cours d'eau sont une préoccupation ancienne dans cette région d'Australie, le plus grand bassin hydrographique du pays avec ses 77 000 km de cours d'eau. Les rivières ont déjà été à sec car les agriculteurs pompaient l'eau sans se préoccuper des ressources. Des plans pour mieux irriguer ont été mis en place. Des milliards ont été dépensés pour rénover les infrastructures, mais certains ne joueraient pas le jeu, dont les producteurs de coton qui prélèveraient bien plus d'eau que ce dont ils ont droit. La question est en train de prendre un tour politique, ça ne risque pas de s'arranger. La météo prévoit encore une hausse des températures dans les jours à venir.
J'en reviens pas, surtout qu'on fasse fumer les coqs. Voilà. C'était là-dessus du cannabis. Allez, merci.
T'es
à
pas
demain.
Obligé de tester. Hein.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Corée du Sud que nous emmène l'Escale Reportage ce soir. En Corée où, tenez-vous bien, si vous cherchez du travail, il y a des chances pour que votre recruteur soit un robot, une intelligence artificielle. Accrochez-vous encore, l'entreprise Midas It, 600 employés, est l'un des leaders de ce secteur. Elle vend un logiciel d'entretien d'embauche. Bonsoir Frédéric Ojardias.
Bonsoir Fabienne.
Frédéric, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, ce système d'entretien d'embauche, donc par intelligence artificielle.
Eh bien, c'est très simple, le candidat reste chez lui devant son ordinateur, il se connecte à un site internet et pendant une heure, il doit répondre à des dizaines et des dizaines de questions et même jouer à des petits jeux. L'entretien est entièrement automatisé. En voici un court extrait.
안녕하세요. Bonjour et bienvenue à cet entretien d'embauche par intelligence artificielle. Avant de commencer, nous allons vérifier votre webcam et votre micro. Présentez-vous et dites-moi vos qualités et vos défauts. Je vais à présent vous poser des questions personnalisées. Prenez votre temps pour y répondre. Madame Choué, dans une situation de compétition, pensez-vous qu'il faut gagner à tout prix ?
Le candidat est filmé et le logiciel analyse non seulement ses réponses mais aussi ses réactions. Derrière ce système se trouve Midas IT, une entreprise de 600 employés basée à Pangyo, la Silicon Valley coréenne, au sud de Séoul. Lee Sung-hoon est le chef de la division recherche.
Le système analyse le visage de la personne interviewée et il sait quand elle est contente, surprise ou nerveuse. Il mesure aussi le ton et les changements de sa voix si le candidat fait des pauses quand il parle. Cette technologie permet aussi d'analyser les mots utilisés par le candidat pour savoir s'il utilise des motifs positifs ou négatifs.
Tous ces éléments ainsi recueillis sont comparés avec une énorme base de données qui comprend les profils de milliers d'employés et le logiciel dresse ensuite un profil psychologique très détaillé du candidat.
Et voici le résultat final de l'entretien. L'évaluation montre quel type de poste est le plus adapté au candidat. Toutes ces capacités sont détaillées. On voit si le candidat a une forte capacité d'attention, de concentration, d'organisation. On voit s'il est passionné, s'il est digne de confiance, s'il sait penser de façon stratégique, s'il montre une attitude positive. Et ici, vous voyez comment le candidat se classe par rapport aux 1000 autres qui se sont présentés pour le même emploi.
Mais alors, Frédéric, quand même, rassurez-nous, c'est pas la machine qui va décider quel candidat sera recruté, si ?
Non, Midas IT assure que son logiciel n'est qu'un outil destiné à faciliter le travail du recruteur et que c'est bien un humain qui fera le choix final. Mais ce choix est bien sûr lourdement influencé par l'évaluation faite par la machine. Lee Sung-woon affirme que son système permet de limiter la discrimination à l'embauche et qu'il permet aux entreprises de faire des économies.
Un système par intelligence artificielle permet de donner la même chance à tout le monde. Elle permet à une entreprise d'interviewer 10 000 personnes en même temps si elle le souhaite. Une entreprise peut ainsi économiser du temps et de l'argent. Et en plus, cela augmente les possibilités d'embaucher des gens talentueux. Les entreprises coréennes ont commencé à utiliser notre système depuis sa mise en vente en mars 2018. Aujourd'hui, nous avons déjà 90 clients.
Parmi ses clients, on trouve de grandes entreprises coréennes, des secteurs de la banque, de la finance ou encore des télécommunications.
Mais alors comment l'arrivée progressive donc de ce système que vous nous décrivez est-elle vécue par les demandeurs d'emploi en Corée du Sud ?
Eh bien, elle suscite des réticences. Selon le quotidien sud-coréen Chungang Ilbo, des candidats interviewés par des robots racontent être mal à l'aise quand ils parlent à un ordinateur. Ils assurent que l'expérience est pénible et pas naturelle. Mais les Coréens sont avant tout pragmatiques et des instituts d'enseignement privés offrent désormais des cours pour préparer ces entretiens d'embauche automatisés. Choi Chung-yo, chercheur d'emploi de 28 ans, se montre lui plutôt positif.
Les gens ont peur d'être interrogés par une intelligence artificielle. Avec d'autres chercheurs d'emploi, nous avons donc fait des recherches pour savoir comment réussir une telle interview, pour connaître les questions posées et savoir quel type d'entreprise est Midas IT. J'ai aussi interrogé des gens qui ont passé cet entretien. J'entends beaucoup de critiques. Ces entretiens durent une heure, les gens disent que cela prend trop de temps et qu'ils n'ont pas assez d'informations pour les préparer. Mais moi, je suis plutôt en faveur de ce système. Je pense qu'il peut évaluer tous les candidats sans discrimination.
Du côté des entreprises, il y a un intérêt très net. J'ai posé la question à Olivier Mourou, chef d'entreprise basé à Séoul et cofondateur de l'agence digitale Asiance. Olivier Mourou reçoit des montagnes de CV tous les jours et il affirme qu'une IA ou intelligence artificielle pourrait en effet l'aider à faire le tri pour identifier les meilleurs candidats. Mais il reconnaît aussi qu'une telle technologie a des limitations, notamment pour tous les profils créatifs.
Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est ce format. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rentrer dans un monde totalement formaté où on va demander aux gens de remplir des cases? Et ça fonctionne bien en Corée parce qu'on sait qu'en Corée, c'est un mode culturel qui est très spécifique. On est un peu dans le monde du quiz et on a tendance ici à cocher des cases. Donc, je veux dire, ça peut fonctionner très bien pour certaines industries. Et puis, effectivement, dans la partie création, c'est... on va certainement pêcher, sauf si on arrive à trouver un IA suffisamment intelligent.
La Corée du Sud est une société où la différence est peu valorisée, où la pression pour faire comme les autres est intense, et on a du mal à voir comment un logiciel pourra évaluer positivement un candidat créatif qui pense de façon différente. Le risque, c'est de devoir, pour se faire recruter, se mettre à penser comme un robot.
Allez, Frédéric Ojardias, merci beaucoup. Vous nous avez tous terrorisés, tiens, autour de la table. Allez, on va se remettre avec William D. Villain, Something's Beautiful.
My mouth, so I can't. can't say please. You make me wanna soak it in gasoline. Stain my new shirt. You make me wanna sip Lysol from a cup. So clean it hurts. You make me wanna breathe. Something beautiful. Something beautiful.
William Z. Villain sur France Inter, Something Beautiful.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saintès.
You are scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Donc ben oui c'est ça, Julia Foyce. Non mais on n'a plus le temps de se raconter des blagues pendant les disques, ça pas du tout. Julia, toutes les semaines vous nous donnez des nouvelles des hommes et des femmes dans le monde, des bonnes et des mauvaises nouvelles. On commence par la vidéo de la semaine.
C'est un sketch de la BBC diffusé dans le cadre du Tracy Ullman Show. On est dans le bureau d'un commissariat, la lumière est froide, le mobilier est gris, la pièce est nue ou quasi. Un homme porte plainte pour vol sous la menace d'une arme. On lui a pris son couteau et son portable, hein, plutôt bien mis, bien fait de sa personne. Il raconte, bafouille, cherche ses mots à une policière imperturbable. L'actrice Tracy Ullman elle-même. Elle a le regard aussi dur que sa frange est droite et ses mâchoires serrées. Très vite, elle le coupe et lui demande « Vous étiez habillée comme ça ?»« Non mais parce que vous faites très riche, hein. C'est un peu provoquant quand même, ça ressemble un peu à une invitation, non ?» Stupéfait, l'homme tente péniblement de se défendre, la policière va alors chercher une collègue.
Aviez-vous bu ? Car si vous aviez bu, vous avez pu envoyer des signaux ambigus, donner de faux espoirs à quelqu'un avec un beau costume et un téléphone, et à la dernière minute, dire « je ne veux pas être attaqué ».
J'avais un couteau sur la gorge et j'ai dit que je n'étais pas d'accord.
Avez-vous crié ?
Vous n'avez pas eu une position très claire.
Non, je n'ai pas crié. Il avait un couteau.
Vous allez devoir accepter de porter une part de responsabilité.
Le sketch est génial, hein. Allez le voir, vous le trouverez facilement sur le net. Vous risquez de vous marrer. Et puis quand même, dans un coin de votre tête, ça devrait faire tilt. Enfin, je vous le souhaite, hein. Quand la victime devient à minima suspecte, cette inversion de la culpabilité, ce mot-là, responsabilité, ça vous parle, non ? Allez, c'est une enquête publiée par l'Ipsos en 2015 sur les Français et leur représentation du viol. On vous a demandé si des femmes qui portaient des tenues sexy dans la rue se rendaient seules chez un inconnu et ou avaient une attitude avec plein de guillemets provocante dans un endroit public étaient en partie responsables du viol qu'elles avaient subi ou si du moins le violeur, lui, était moins responsable du crime qu'il avait commis. Vous êtes, suivant les cas, 30 à 40% à répondre « oui, c'est quand même un petit peu de leur faute ».
Et on continue avec le slogan de la semaine.
La perfection au masculin, ça vous dit quelque chose,
mais
Fabienne?
Oui, gravement.
Évidemment, c'était le gilet et le mâle du XXe siècle en 2019, soit un an après MeToo, la marque fait un virage à 180 degrés.
Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it.
Le meilleur qu'un homme puisse avoir devient dans cette nouvelle campagne le meilleur qu'un homme puisse être. On y voit des hommes qui harcèlent, humilient des femmes, plaquent des mains aux fesses et des garçons qui se castagnent. Et comme un refrain, on boucle « Boys will be boys ». Ce sont des garçons que voulez-vous, haussement d'épaule, sourire mi-fier, mi-résigné. Mais là, la voix off dit « Stop, quelque chose a changé ». Il est temps que ces comportements cessent, tant que les adultes d'aujourd'hui apprennent aux petits garçons à devenir des hommes meilleurs demain. C'est bien, hein? Eh ben, c'est pas la vie de tout le monde. La pub a été vue 1 million de fois en 24 heures. Elle a récolté 13 000 mentions j'aime sur YouTube. C'est très peu.
C'est vrai que c'est pas beaucoup.
Et 10 fois plus de je n'aime pas. Sur Twitter, les commentaires outragés n'ont pas tardé à se pointer jusqu'aux appels au boycott de la marque. Si, qui empêcherait les petits garçons de devenir des hommes, des vrais. Ah, vous voulez dire ceux qui harcèlent, humilient, se castagnent, c'est ça?
Allez, la question de la semaine, Julien.
Alors? Heureuse. Je résume, mais c'est à peu près ce qui a été demandé par l'IFOP à 6000 femmes venues de 6 pays européens. Et la réponse est dingue, hein, Fabienne. Elles sont toutes, nous sommes toutes incroyablement satisfaites de notre vie sexuelle. Grimpage au rideau assuré. Ululement de chouette garantie. Chaque galipette est une promesse. Promesse de bonheur et de paradis. Je déconne, évidemment. Le résultat n'est pas glorieux, surtout dans les pays latins. Ça a peut-être en partie quelque chose à voir avec les hommes, les vrais, de Gillette, hein, je sais pas. En tout cas, avec un taux de 30% d'insatisfaction, les Italiennes, les Françaises et les Espagnoles sont clairement les moins bien loties. Ah, alors vous me direz... Oh,
les latins.
Ben voilà, toujours. Et boum, hein. Vous me direz, jamais contente celle-là, c'est déjà pas mal qu'on leur pose la question. Ok, n'empêche, elle ferait bien de prendre un billet pour Amsterdam. Ouais. Les Néerlandaises sont seulement 25% à rêver d'une vie sexuelle plus épanouissante. Pour les trois quarts, donc tout va bien. Ça doit être l'effet tulipe, allez savoir. Enfin, on est quand même loin des 100%. Hein, donc, comment vous dire, ce post Instagram publié cette semaine par une Anglaise tombe pile poil comme il faut. Elle écrit « Le fait que j'aime encore les hommes aujourd'hui prouve que la sexualité n'est pas un choix. » Et ça, c'était la vanne de la semaine.
Allez, on termine avec une avancée pour les Saoudiennes, dites-moi.
C'est un pas de géant qui vient, un joli progrès qui est, disons, un petit saut de cabri, hein, mais petit à petit, l'oiseau faisant toujours son nid. Depuis la semaine dernière, les tribunaux saoudiens sont tenus d'envoyer un SMS aux femmes dont les maris viennent de divorcer. Certes, ça reste très unilatéral là-bas, mais jusque-là, les hommes pouvaient se démarier sans en avertir leur ex, qui restait alors dans un flou juridique complet. C'est donc terminé. Les Saoudiennes pourront désormais, elles aussi, se faire lourder par texto. Comme quoi, il y a quand même une justice.
Mais je ne vous le fais pas dire. Allez, Julia Foy, c'est à la semaine prochaine.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four. Jean-Marc, ce soir encore, la Pologne est en deuil après l'assassinat avant-hier du maire de Gdansk. Ce meurtre reflète la violence politique qui règne dans ce pays. Et tout cela a déclenché une très forte mobilisation. D'où votre point de vue, Jean-Marc. Et si, paradoxalement, après ce meurtre, la Pologne montrait la voie pour mettre fin à la violence politique?
Alors, d'abord, il y a ce constat, il est froid, il est clinique. Avant-hier, Pavel Adamovitch a été sauvagement assassiné, poignardé en plein cœur sur une estrade publique. Selon la version officielle, il a été tué par un malade mental, braqueur à l'occasion. Mais les Polonais ne s'y trompent pas, cet acte est indissociable du climat de haine qui domine la vie politique dans le pays, parce que ce climat légitime le passage à l'acte des personnes les plus déséquilibrées. Pour le grand quotidien Gazeta Wyborcza, pas de doute, c'est, je cite, « un crime politique ». Pourquoi? Vous allez comprendre. Adamovitch avait 53 ans, il était très populaire dans sa ville de Gdansk, facilement réélu à l'automne dernier. C'était un ancien membre du parti d'opposition Plateforme Civique et surtout un défenseur des droits de l'homme. À ce titre, l'une des bêtes noires du parti ultra-conservateur au pouvoir en Pologne, le PiS. Certains groupuscules extrémistes lui avaient même adressé il y a quelques mois, écoutez bien, un certificat de mort politique. Rétrospectivement, ça laisse songeur, ça fait froid dans le dos. Pour compléter le tableau, il était donc le maire de Gdansk, la ville emblématique de la révolte dans les années 80 contre la précédente dérive totalitaire du pays, le communisme. Et il a donc été poignardé alors qu'il participait à une collecte de fonds pour le Grand Orchestre de la Charité. C'est une association laïque très populaire, rivale des organisations caritatives de l'Église liées au pouvoir. Donc tout concourt à faire de cet assassinat, oui, un symbole de la violence politique.
Mais en face, il y a un holocœur face à cette violence.
Oui, les images qui nous arrivent de Gdansk et aussi de la capitale Varsovie sont impressionnantes. Ça fait un peu penser à ce qui s'est passé en France après l'attentat contre Charlie Hebdo. Malgré le froid, une immense foule a spontanément envahi les rues de Gdansk hier dans le silence, sans mot d'ordre, sans organisation politique, et ça recommence ce soir et ça va recommencer demain pour les obsèques de Pavel Adamovitch. Il y a là en effet quelque chose qui relève du « halte là, ça suffit, stop ». stop, trop de violence, trop de haine, notamment sur les réseaux sociaux. On parle toujours de la Pologne et de ses 38 millions d'habitants à peu près comme l'une des incarnations de cette bascule vers un populisme réactionnaire. Mais il y a aussi dans cette même Pologne une résistance croissante face à cet autoritarisme. En fait, il y a aujourd'hui deux Pologne. D'un côté, pour faire simple, celle des petites villes et des campagnes qui votent pour les ultra-conservateurs. De l'autre, celle des grandes villes qui défendent des positions plus ouvertes sur la justice, les libertés publiques, l'immigration, etc. Et le vrai défi pour la Pologne aujourd'hui, c'est cette division profonde du pays. On peut noter au passage que ça rappelle en partie les problématiques françaises sur les gilets jaunes. En tout cas, il y a une vraie mobilisation contre la dérive autoritaire et violente.
Mais alors, en quoi est-ce que cela montrerait la voie à un mouvement plus large ?
Eh bien, parce qu'en fait, cette résistance à l'autoritarisme, on la constate aussi ailleurs. On s'est beaucoup focalisé sur la progression ces derniers mois des mouvements nationalistes et autoritaires, souvent réunis dans le mot attrape-tout populisme. Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini, etc. On l'a fait à juste titre parce que cette évolution dit beaucoup du sentiment de frustration, pour ne pas dire plus, qui domine dans des pans considérables de nos sociétés. Mais le fait le plus récent et peut-être ailleurs, dans l'émergence de réactions populaires d'opposition à ces dérives autoritaires. Pas seulement en Pologne, en Hongrie, depuis la mi-décembre, la rue défie le pouvoir de Viktor Orban pour s'opposer à la fermeture de l'Université d'Europe centrale et à l'adoption des nouvelles lois sur le travail. La prochaine grosse manifestation est prévue ce samedi. En Serbie, même chose, depuis maintenant un mois et demi, tous les samedis, la rue défile contre l'autoritarisme et le nationalisme du pouvoir d'Aleksandar Vučić. Et ce ne sont pas les partis politiques classiques qui structurent ces mouvements de résistance. Ce sont des médecins, des artistes, des enseignants, des journalistes. Oui, des journalistes. Souvent, parce que quand on commence à s'attaquer à la liberté de la presse, c'est toujours qu'on a l'intention de s'attaquer ensuite à la liberté tout court.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers, tous les jours, dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup. Dans un instant, c'est le journal de Sébastien Paour et puis c'est l'ami Stéphane Leneuf qui prend le relais avec les téléphones Sonne Spécial Europe. Cette fois, Theresa May, Stéphane, au pied du mur alors.
Oui, au pied du mur, ce soir, on saura effectivement si la Chambre des communes rejette cet accord avec l'Union européenne. Alors ce soir, on va se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer après? Et surtout, les conséquences aussi pour les citoyens européens, pour les Britanniques. On va essayer de faire du concret. Brexit dur, Brexit mou, pas de Brexit du tout. Ce soir, on va voir tout cela avec mes invités à partir de 19h20. Un numéro, le 01 45 24 7000.
Et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Stéphane.